La récession est aux portes de l'Europe. Les prévisions économiques de la Commission européenne sont alarmantes. Alain Franco nous relayera les mauvaises nouvelles qui ont été annoncées aujourd'hui à Bruxelles. Et la Grèce tient son nouveau Premier ministre, Loukas Papademos. L'ex-vice-président de la Banque Centrale Européenne succédera à Georges Papandréou à la tête de l'État. Aujourd'hui, il se dit convaincu que l'avenir de la Grèce est dans l'euro. Et nous évoquerons également ce coup de filet de la FINMA, l'organe de contrôle des banques qui a épinglé 4 établissements, 4 banques suisses qui auraient enfreint la réglementation sur le blanchiment d'argent. Olivier Longchamp, spécialiste financier à la Déclaration de Berne, nous dira que pour lui, il ne s'agit que de la partie émergée de l'iceberg. Du Stratus le matin, puis un temps bien ensoleillé au programme de demain. On retrouvera Sébastien Dupéré à la fin de cette édition. Bonsoir. Les prévisions économiques de la Commission européenne pour 2012 ont été publiées en fin de journée. Elles sont très sombres. La récession est aux portes de l'Europe, prévient aujourd'hui le commissaire chargé de l'euro et des affaires économiques. Alain Franco, vous avez insisté à cette conférence de presse.
Ne tirez pas sur le messager, a demandé Olli Rehn en ouvrant sa conférence de presse. Il faut dire que le commissaire européen à l'euro n'avait que des mauvaises nouvelles à annoncer, à commencer par celle-ci. La récession est aux portes de l'Europe. Les chiffres sont effectivement très sombres. La croissance économique dans la zone euro sera d'à peine 1,5% en 2012. Au printemps, la prévision était encore d'1,8%. Et la quasi-totalité des indicateurs est au rouge. La dette enfle à 90% du PIB l'an prochain en moyenne pour toute la zone euro. C'est 2 points de plus que cette année. Le déficit est aujourd'hui de 4,1%. Il baissera à 3,4% en 2012. Ça descend, mais moins vite que prévu. Les banques, elles, prêtent de moins en moins. Dans ces conditions, il n'y a aucune amélioration à prévoir sur le marché du travail. Le risque de récession qui touchera déjà certains pays au tournant de l'année est donc présent pour toute la zone euro, martèle Olli Rehn, à moins d'agir avec détermination. Le commissaire européen a donc appelé les États membres à accomplir, sans tarder et sans fléchir, les réformes qui font consensus en Europe. C'est un appel à se réveiller, le dernier, dit-il. Alain Franco, Radio Suisse Romande, Bruxelles.
Et en France, les ministres des Finances et du Budget, François Baroin et Valérie Pécresse, ont assuré à la zone euro que leurs engagements financiers internationaux seront tenus d'ici la fin de l'année. La Commission européenne a demandé à la France d'accentuer ses mesures de rigueur pour ramener le déficit public à 3% du PIB. Paris souligne aujourd'hui la détermination totale du gouvernement à atteindre ses objectifs. L'ex-vice-président de la Banque Centrale Européenne, Loukas Papademos, est le nouveau Premier ministre de la coalition Grèce. Il succède à Georges Papandréou, contraint de démissionner. À 64 ans, Loukas Papademos, sociolibéral et européen convaincu, a déclaré dans sa première allocution officielle que l'avenir de la Grèce était dans l'euro. Il prêtera serment demain à 13h pour Constantin Kokinos, avocat et président du Swiss Club de Grèce. Le choix de Papademos est un signal fort lancé à Bruxelles.
C'est un grand soulagement pour tout le monde, puisqu'il fallait que ça aboutisse quelque part, qu'on trouve une solution quelconque. M. Papademos, il est en dehors du contexte politique actuel, qui n'est pas très stable, surtout qui n'est pas très fiable, et donc c'est déjà une garantie. Il connaît la situation européenne, mais il connaît aussi la situation grecque. On ne va pas le sacrifier dans le sens que lui, il ne comptait pas auparavant, mais je pense qu'il ne compte toujours pas faire une carrière politique. Il est là pour faire un travail technique, pour redonner à la Grèce un air de confiance et surtout vis-à-vis de ses partenaires européens, de fiabilité. Pour un gouvernement transitoire, je pense que c'est un très bon choix.
Des propos recueillis par Céline Tso. La Croatie a franchi une étape cruciale sur la voie de son adhésion à l'Union européenne. Elle signera le traité d'adhésion à l'Union le 9 décembre prochain au cours d'une cérémonie à Bruxelles. La Croatie qui a terminé de longues négociations en juin dernier, elle deviendra ainsi le 1er juillet 2013 le 28e membre de l'Europe. Au Liberia, les résultats partiels des élections présidentielles annoncent la victoire de Ellen Johnson Sirleaf. La lauréate du prix Nobel de la paix a récolté 90% des voix. Elle annonce qu'elle formera un gouvernement d'union une fois son élection officiellement proclamée. L'Iran répondra de toute sa force à une agression menace provenant des États-Unis ou d'Israël. Ce sont les mots de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien. Suite à la menace d'attaque nucléaire agitée ces derniers jours par des responsables israéliens, l'Agence internationale de l'énergie atomique a fait part mardi de ses sérieuses inquiétudes. L'AIEA qui craint une possible dimension militaire du programme nucléaire iranien. Et aujourd'hui, la communauté internationale est divisée quant à l'adoption de sanctions contre Téhéran. Ban Ki-moon, le chef des Nations Unies, a appelé ce soir à la recherche d'une solution diplomatique dans ce conflit. L'administration américaine a annoncé son intention d'étudier un nouveau tracé pour un projet controversé d'oléoduc entre les États-Unis et le Canada. Une victoire pour les opposants au projet qui réclamaient la préservation des zones naturelles fragiles dans l'État du Nebraska. Il faut mieux préciser les conditions dans lesquelles la Suisse répondra aux demandes américaines concernant des informations groupées en matière fiscale. C'est l'avis de la Commission de politique extérieure du Conseil des États qui rectifie le projet de la ministre des Finances Evelyn Widmer-Schlumpf. Pour la majorité, les modèles de comportement visant à soustraire des avoirs au fisc américain, comme c'est le cas par exemple lors de la dissimulation d'une structure offshore, ces modèles doivent être explicitement adjoints à la nouvelle convention de double imposition. Et pour le président de la Commission, Eugène David, il n'y a pas lieu de craindre que les autres États exigent de mêmes facilités.
On a un contrat avec les États-Unis qui est différent des autres contrats et c'est un contrat ancien et on voulait l'ancienne pratique qu'on avait avec les États-Unis qui sont dans ce arrêt du tribunal fédéral administratif qu'on laisse cette pratique aussi pour le futur. Ça, ce n'est pas le cas dans les autres contrats.
Donc les autres pays n'ont pas les mêmes droits et ne pourront pas les avoir.
Non, je crois maintenant ça, c'est sûr, pour le moment, ce n'est pas la question. Non.
Eugène David était interviewé par Pascal Jeannerat. La FINMA, l'organe de contrôle des banques, a épinglé 4 établissements, 4 banques suisses qui auraient enfreint la réglementation sur le blanchiment d'argent. Aujourd'hui, une coalition de 7 ONG suisses juge que l'enquête de la FINMA sur les avoirs de potentats d'Afrique du Nord dans les banques suisses comporte des lacunes importantes. Elle dénonce un rapport lacunaire, donc, de l'autorité fédérale de surveillance des marchés. Écoutez Olivier Longchamp, il est responsable du dossier Finance et Fiscalité à la déclaration de Berne.
La FINMA s'est contentée d'aller chercher dans les banques qui avaient signalé des fonds comment elles avaient appliqué les mesures de diligence qu'elles sont censées appliquer lorsqu'elles travaillent avec l'argent des personnes exposées politiquement. Et puis ça, pour nous, c'est problématique parce qu'en fait, on est quelque part allé chercher à l'endroit où on savait qu'il y avait quelque chose. Déjà, nous, la principale critique qu'on fait, c'est que, en fait, ce qui a été bloqué finalement, c'est que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire on a bloqué des comptes qui étaient les comptes appartenant nominativement aux personnes déchues, mais on est loin d'avoir bloqué l'ensemble des sommes que l'ancien régime avait transférées sous différentes formes en Suisse. Et puis, on peut se poser la question s'il ne faudrait pas intensifier des contrôles extérieurs aux banques pour voir dans quelle mesure elles appliquent la loi. On nous certifie que la loi est excellente, mais comment est-ce qu'elle est appliquée? Et de ce point de vue-là, la FINMA a une réponse tout à fait dilatoire en disant « Bon, au fond, la législation est ce qu'elle est, c'est une bonne législation, elle est appliquée, il n'y a pas de raison de changer notre façon de faire. »
Olivier Longchamp répondait à Didier Duployé. Des milliers d'enfants ont accompagné aujourd'hui un parent ou un proche au travail à l'occasion de la journée future en tout genre. Une participation hausse pour cette manifestation. Une manifestation qui a pour objectif de découvrir les métiers au-delà de la barrière des sexes. Et le soutien aux employés vaudois de Novartis qui doivent perdre leur emploi prend un tournant surprenant. Un médecin genevois a lancé un mouvement de boycott des médicaments produits par le géant pharmaceutique balois. Une cinquantaine de confrères seraient prêts à le suivre. Bertrand Bux, rhumatologue et député PDC au Grand Conseil genevois, expliquait sa démarche à Nathalie Ducommun.
Oui, parce que les médecins ont toujours soutenu l'industrie suisse, ont toujours soutenu l'industrie pharmaceutique suisse. Et là, on n'arrive pas à comprendre de fermer une usine qui marche, qui fait du bénéfice. Nous, on est attachés à l'industrie suisse. Et là, pour moi, c'est une décision qui va à l'encontre complète de la publicité pour Novartis. Je suis triste pour eux parce qu'ils sacrifient ce qui fait le fond de leur commerce avec le SwissMed. On ferme des compétences pour faire des économies que moi, j'arrive pas à comprendre. Mais le problème, c'est de se dire qu'est-ce qu'on est. On est suisse, on se bat pour l'industrie suisse, on forme des jeunes au niveau universitaire pour développer l'industrie suisse. Et à ce moment-là, l'industrie suisse ne respecte pas le travail qui a été fait par tous ces gens pour développer, parce que Novartis, sans les chercheurs, sans les médecins, sans les personnes qui travaillent sur les sites, c'est rien, c'est zéro.
Et toujours dans le domaine médical, à Genève, les mouvements de grève se multiplient aux hôpitaux universitaires. Après les aides-soignantes, c'est au tour du personnel de laboratoire et de nettoyage de débrayer. Ils demandent une revalorisation de leurs fonctions.
Pour ce qui est des aides-soignantes, la situation est en train de se débloquer. Le Conseil d'État a fait un pas en leur direction et des négociations sont en cours. Les aides-soignantes ont d'ailleurs suspendu leur mouvement de grève, ne maintenant que des piquets le matin, et pourraient l'arrêter définitivement d'ici la fin de la semaine. Ce qui n'est pas le cas du personnel de laboratoire, environ 180 personnes, et de nettoyage, entre 500 et 600 personnes au total, des nettoyeurs qui réclament notamment des mesures depuis 1998. Les revendications adressées à la direction sur la question des salaires et des effectifs n'ayant pas obtenu de réponse, les deux secteurs ont décidé d'entamer une grève dès ce matin 7h et pour une durée illimitée. Du côté de la direction des HUG, plutôt contrainte aux économies, on indique ne pas pouvoir augmenter les effectifs. Quant aux revalorisations de fonctions, elles sont du ressort du Conseil d'État.
C'était Sylvie Belzer à Genève. Un accident d'avion a fait un mort en début d'après-midi sur la commune de Cotence, dans le canton de Fribourg. Peu après le décollage, alors qu'un épais brouillard s'étendait sur les environs, le Piper bimoteur qui s'envolait en direction de Genève a perdu de l'altitude avant de s'écraser dans un champ. Roger Federer a décroché sans trembler son ticket pour les quarts de finale du Master 1000 de Paris-Bercy. En 66 minutes, il a battu Richard Gasquet au troisième tour, 6-2, 6-4. Demain, le numéro 4 mondial affrontera un adversaire inattendu, l'Argentin Juan Monaco. Encore un coup d'œil sur la bourse. À la clôture, l'indice SMI reculait de 0,75% par rapport à la veille. Il a terminé dans le rouge à 5 565 points. Et de son côté, Wall Street a fini en hausse avec un Dow Jones de plus de 0,96% et un Nasdaq qui a atteint les 0,13%. Et on termine cette édition avec la météo de Sébastien Dupéret.
Soleil en montagne, stratus en plaine, c'est le menu que Météo Suisse annonce pour ces prochains jours. La présence d'un anticyclone puissant sur l'Europe garantira un temps stable et doux jusqu'en début de semaine prochaine. Demain, le scénario sera donc le même que ces derniers jours. Un stratus présent dès le matin sur le plateau et le bassin lémanique et un temps rapidement ensoleillé dans le Jura vaudois, les montagnes neuchâteloises, le Chablais et le Valais. Dans l'après-midi, des ouvertures vont se faire dans la couche de grisaille, notamment sur l'est lémanique. Les températures avoisineront les 3 à 5 degrés à l'aube. Dans l'après-midi, il fera 12 sur le plateau et 15 en Valais. Ce week-end, pas de changement. Soleil en dessus de 1000 mètres et en Valais. Stratus de plus en plus tenace en plaine. Une légère bise se lèvera sur le plateau, mais elle n'aura pas de grands effets sur les températures. Il fera encore